pour la question du sœur qui dit, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, si la femme avait mis comme condition pas de polygamie et que son mari a accepté, commet-elle un péché de refuser si la sœur sait qu'elle ne pourrait pas supporter lui lui est-il obligatoire de vivre dans un foyer polygame même si elle sait pertinemment qu'elle n'aura pas la capacité de se supporter, barakallahu fikoum. Donc ma réponse à cette sœur en deux volets. Le premier volet, c'est de lui rappeler que la polygamie est une législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un droit qu'Allah a accordé à l'homme par rapport à sa nature et par rapport à ses besoins. Et la femme croyante, donc ça c'est la première partie, c'est de lui rappeler que c'est une législation d'Allah qu'elle doit accepter comme législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et que le bien, tout le bien est dans l'application de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car les problèmes qu'on puisse voir dans les couples polygames, ce n'est pas lié à la législation d'Allah comme vous le savez. Là qui le rappelle est bénéfique pour le croyant. Les problèmes sont dus aux injustices, à l'ignorance, au manque de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin quand la loi d'Allah est appliquée comme Allah le veut, c'est le bien. Et ça, je l'ai entendu d'hommes polygames qui le rapportent de leurs épouses, qui pourtant au début peut-être n'acceptaient pas totalement. Là, qu'il la femme, quand l'homme est très riche, elle finit par accepter en général. Et par la suite, elle a réalisé que c'était un grand bien pour elle, dans sa santé, dans son état, dans son mental, et même à tous les niveaux. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais la femme a constaté que c'était un grand bien pour elle. Donc, la femme, elle doit prendre en considération les éléments. Elle a des fois, son mari peut avoir des besoins qu'elle ne peut pas combler par rapport à certaines choses qu'on comprend chez la femme. Lakin, ça peut être le cas. Maintenant, la deuxième partie de cette réponse, est-ce que c'est obligatoire de rester avec un mari qui souhaite prendre une deuxième épouse, étant donné que la femme lui a mis cette condition dans le contrat de mariage? La réponse, non. Et ce n'est pas parce qu'elle refuse qu'elle rejette la législation d'Allah. Car il y a des maris qui peuvent se servir de ce point pour faire culpabiliser la sœur. Al-Nabi a refusé la polygamie pour sa fille. Donc, c'est pas parce que la femme... Naam, il peut y avoir des sœurs qui rejettent le décret d'Allah, et là qui rejettent la législation d'Allah. On s'imagine que ça puisse exister. Lakin, pas toute femme qui refuse la polygamie est forcément une femme qui rejette la législation d'Allah et qui n'accepte pas la législation d'Allah. Ça peut être lié à sa nature, à sa forte jalousie, comme a dit Ummu Salama radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a demandé en mariage, elle lui a dit « Je suis une femme extrêmement jalouse. » Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Je vais invoquer Allah qu'il enlève ta jalousie, ton excès de jalousie. » Donc, il peut y avoir des femmes comme ça. Ou là, sa faiblesse. Ou là, ou bien on a été dans une éducation où on accepte la polygamie, donc on l'accepte facilement, même si on n'a pas un niveau de foi élevé. Et si on n'a pas été habitué, ou là on n'a pas été élevé dans des sociétés où la polygamie est très pratiquée, est acceptée facilement par les femmes, à ce moment-là, il faut un niveau de foi. Il y a un niveau de science. C'est pour ça qu'ils ont demandé à un homme, un enseignant, parmi les hommes de science, ils lui ont dit « Comment t'as fait pour que ta femme accepte la polygamie ?» Et même qu'elle aille jusqu'à te chercher la deuxième et la troisième et la quatrième épouse. Il leur a dit, ce travail était fait sur une quinzaine d'années. C'est-à-dire, il lui a enseigné la religion, son niveau de foi a augmenté, et aussi elle a vu un grand homme. Il y en a la femme intelligente, elle ne peut pas choisir de se séparer d'un grand homme, d'un homme qui est grand à ses yeux. Il n'y a pas de femme intelligente qui va faire ce choix. Et le grand, et l'homme, qui est un grand homme pour la femme, c'est celui qui va la combler et être à la hauteur de tous ses besoins matériels, premièrement. Ça, ça peut étonner. La kinsa, c'est la chose la plus importante pour une femme. Et non pas parce que c'est une femme matérialiste. Naam, il y a des femmes matérialistes. Mais ça, c'est quelque chose qui a une forte signification pour la femme, que cet homme est un homme compétent, est un homme fort, est un homme qui peut, qui lui donne le sentiment de la protection et de la sécurité. Ensuite, c'est un homme qui va la combler sentimentalement. Il va exprimer ses sentiments et il va lui montrer son amour et son attachement à elle. Ça, c'est le deuxième point le plus important. Et en troisième position, seulement pour la femme. L'ordre n'est pas le même chez les hommes. Lakin, en troisième position, seulement chez la femme, c'est un homme qui va la satisfaire sexuellement, car la femme, quand elle voit un homme comme ça et qu'elle l'aime, elle veut qu'il soit proche d'elle et elle veut sentir qu'elle est aussi proche de lui et qu'elle le satisfait. Donc la femme cherche un homme qui est fort et qui est persévérant et qui a un certain acharnement jusqu'à atteindre ses objectifs. C'est de ça que la femme a besoin. C'est pour ça, Yanni, les travaux durs et le grand effort physique n'est pas fait pour la femme. Yanni, la femme, physiquement, elle n'a pas été créée pour ça. Sauf des femmes, il y en a quelqu'un, il peut dire, oui, les femmes dans les campagnes, elles font des travaux durs. Lakin, ça reste plus des femmes. Une femme comme Allah l'a créée, elle a besoin de vivre et de profiter de la vie et de donner à son entourage et de partager son amour et ses sentiments. Lakin, c'est l'homme qui a besoin de cette force. Pour être un homme, il faut qu'il ait cette force. Et c'est ce sens de la responsabilité, et c'est yani, qu'ils fournissent les efforts physiques yani, afin de répondre aux besoins des membres de sa famille. Et cet homme, il donne le sentiment de la sécurité pour la femme, le sentiment de l'assurance, en plus du sentiment de l'amour, de partager avec elle ces sentiments de l'amour, vient en troisième place seulement yani, le dernier critère. Lakin chez l'homme, c'est l'inverse. C'est pour ça la femme, yani, comme je dis toujours, il est très important que la femme comprenne la nature de l'homme. Et que l'homme également comprenne la nature de la femme. L'homme, pour l'homme, le plus important, c'est l'intimité. C'est pour ça une femme, il ne faut pas qu'elle fournisse énormément d'efforts dans le foyer, dans le ménage, et quand son mari la demande, elle n'est jamais disponible, elle n'est jamais prête. Pour lui, ça, c'est le critère le plus important. Si elle ne peut pas faire le ménage, il peut lui ramener une femme pour l'aider. Ça ne lui pose pas de problème pour les hommes. Lakin, il veut, quand il la demande, qu'elle soit disponible. Donc ça doit être le premier point chez la femme. Et si Allah nous permet, on parlera des critères dans une autre fois qui concernent l'homme, yani comment il voit la femme. C'est pour ça, yani, la femme qui refuse d'être dans un couple polygame, étant donné qu'elle a mis ça en condition de mariage, elle est pleinement dans son droit et elle peut demander le divorce sans encourir de menaces de la part de son créateur. Lakin, ce n'est pas ce que je lui recommande. Lakin, si elle le fait, c'est elle est pleine dans son droit. Là, qu'est-ce que je lui recommande? C'est de ne pas perdre son mari, surtout si elle a des enfants avec lui, car elle ne trouvera plus jamais un homme comme lui pour ses enfants. Wallahu alam. Cette question nous a pris beaucoup de temps. Dans le cas où le mari a changé d'avis. Ouais, le mari, il a le droit de changer d'avis. Le mari qui a accepté la condition de ne pas prendre une seconde épouse, s'il estime qu'il a un besoin, il peut changer cet avis sans prendre de péché. Lakin, ça donne le droit à la femme de demander le divorce sans encourir la menace. Donc peut-être on va terminer avec cette sœur, avec cette question. La sœur, elle dit, je fréquentais une sœur au centre d'apprentissage d'arabe tous les jours, qui atteint de ouswas et commence à avoir un comportement inquiétant. Celle-ci est éprouvée par la dépression et son état s'empire de pire en pire, malgré la da'wa et les nasa'ih. Rien ne change. Que dois-je faire? Quels sont vos conseils? Ce que vous pouvez faire, si cette femme a un mahram, son frère ou là, son père ou là, et qu'il me contacte, et qu'on parle directement en présence de son mahram, et d'essayer de répondre à ses questions, et d'essayer de l'aider par rapport à l'ouswas. L'ouswas, c'est une des maladies les plus graves, si ce n'est pas la maladie la plus grave, surtout quand il arrive à des stades avancés, il devient un ouswas obsessionnel. Wallahu a'lam. Que conseiller? C'est une question intéressante. Le frère, il dit, que conseillez-vous? Malgré que le but, c'est de répondre qu'aux questions des sœurs. Lakin, le frère, il dit, que conseillez-vous à quelqu'un qui veut faire l'hijra lorsque c'est compliqué avec les parents? Yahri, c'est une grave erreur de parler à tes parents de l'hijra. Yahri, c'est un manque de sagesse. La sagesse, c'est de placer chaque chose à la place qui lui convient. Tes parents, si tes parents, c'est dans le cas de la plupart de nos parents, des gens qui ont tout laissé derrière eux, des gens qui ont tout sacrifié pour aller en terre de kufr, pour améliorer leur niveau de vie, et toi tu lui dis d'aller dans le sens inverse, bien évidemment il ne va jamais te comprendre, parce que pour lui l'islam c'est partout, c'est la terre d'Allah. Pourquoi tu ne restes pas dans un pays de kufr et t'adores Allah? Donc c'est un manque de sagesse de parler avec tes parents. Si tu leur dis tu vas au Maroc ou là en Algérie, pour les vacances, ils ne vont jamais être contre. Lakin, si tu leur dis « je vais faire l'hijra », Shaitan, il va leur faire peur en voulant te mettre la pression de cette manière avec les parents. Yani, je connais des familles, des parents, qui laissaient leur maison à leurs enfants, étant donné qu'ils allaient dans leur pays d'origine pour les vacances. Et le jour où ils leur ont demandé de leur laisser la maison pour l'hijra, ils ont refusé. Les parents, ce n'est pas qu'ils refusent en réalité, mais ils veulent leur mettre de la pression pour qu'ils reviennent, car ils ont peur de ce qui va leur arriver dans un pays d'islam, alors qu'eux-mêmes, ils sont originaires de ce pays. Ils disent le plus souvent, c'est tous des voleurs, c'est tous des gens mauvais, alors qu'eux, ils sont du même pays. Hada, c'est le travail de Shaitan. C'est pour ça la sagesse, Yahri, c'est de ne pas parler à tes parents de l'hijra. Yani, tu pars, tu leur dis, je vais faire un voyage. Hadi. Et après, une fois sur place, tu leur dis, j'ai trouvé un bon plan pour apprendre la langue arabe. Et tu commences petit à petit à leur faire comprendre que tu restes, sans le dire d'un coup. Chouïa b'chouïa. Donc, nous allons nous limiter à ça. Barakallahu fikum. S'il y a une autre question, renvoyez-la pour notre prochaine rencontre. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.